Bienvenue, merci d'être ici, parce que c'est vrai que c'est précieux, irremplaçable d'avoir des réalisateurs à nos côtés quand même pour parler de cinéma et travail. Vous avez chacun, alors vous avez fait chacun des films différents qui ne portent pas forcément tous sur cette thématique, mais en tout cas les films que vous avez fait chacun en lien avec le travail sont extrêmement différents, sont des approches très différentes, et je pense que c'est ce qui sera intéressant aussi d'évoquer aujourd'hui. Alors je vous dis un petit peu comment pour la salle comment on avait un petit peu prévu les choses. Donc je vais présenter brièvement chaque intervenant, mais je pense que je vais les faire s'exprimer les uns après les autres un petit peu sur les mêmes thématiques, et ça va durer entre à peu près une demi-heure, on verra, et puis un peu moins selon leurs envies aussi, et puis ensuite on aura cet échange d'une heure avec la salle. Donc le sujet de cette table ronde de maintenant, c'est qu'est-ce que filmer le travail aujourd'hui, que montre le cinéma du travail aujourd'hui. Et donc je pense que dans la discussion qui va s'enchaîner, je voudrais leur demander à chacun qu'est-ce que ça a été pour vous filmer le travail dans les films que vous avez faits qui sont en lien avec le travail, mais aussi qu'est-ce que vous percevez aujourd'hui de cette relation cinéma-travail que vous avez évoquée juste précédemment. Et puis dans les questions que je vais poser à chacun d'entre vous, je pense qu'on pourrait se baser sur déjà deux ou trois approches, mais je vais y revenir après. Donc la genèse de votre film, de vos films, pourquoi vous les avez créés, le contexte dans lequel vous avez travaillé, comment ils ont été faits. La façon dont vous avez abordé la question du travail dans ces films, vos choix, les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées. En fait, tout ce qui vous semble intéressant de partager avec la salle sur cette thématique. Et puis, on pourrait aussi s'attarder un petit moment sur les conditions de tournage, comment vous avez travaillé avec l'équipe, comment vous constituez des équipes, puisque vous êtes aussi donc des travailleurs du cinéma. Et puis, avec des équipes, c'est un travail collectif. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que chacun s'empare du sujet comme il le souhaite. Moi, c'est plutôt une trame pour guider le débat, mais vous pouvez en sortir tout à fait. Alors peut-être, du coup on va peut-être faire dans l'ordre comme vous êtes disposés aujourd'hui. Donc il y a une petite biographie d'Antoine Rusbach dans le document que vous avez. Donc moi j'en ai retenu surtout que c'est un premier long métrage, mais qui suit deux autres films que vous avez réalisés. En tout cas, Michel et ceux qui travaillent, vous l'avez co-réalisé avec Emmanuel Marr. Il y avait aussi un autre film qui a été remarqué, Les bons garçons. Je ne sais pas si celui-ci, par contre, c'était vous seul qui l'aviez réalisé avec une autre personne, peut-être, je crois. Vous l'avez écrit et vous l'avez réalisé ensuite, voilà. Donc Antoine Rusbach, d'origine suisse et sud-africaine. Vous avez fait vos études de réalisation et de scénario en Belgique. Je ne sais pas si ça a eu une incidence ou pas dans votre travail, vous nous le direz, certainement ça en a eu. Et puis effectivement, tout de suite, Michel a fait l'objet de beaucoup de sélections dans de nombreux festivals. C'est déjà un film qui aborde d'une certaine façon déjà des rapports de travail, de domination, et qui pose déjà un peu la question du choix, de la lâcheté, du courage. Et puis celui, le film le votre dernier film autour du travail, c'est donc Ceux qui travaillent, que l'on a passé à Montciné samedi soir, avec comme acteur principal Olivier Gourmet. Donc ce film-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai pas à en dire trop, il met en scène un cadre supérieur dans une grande compagnie de fret qui est père de 5 enfants et qui à un moment donné de sa carrière, une entreprise dans laquelle il s'est énormément investi, où il s'est un peu fait tout seul, enfin où il a passé beaucoup de temps et il s'est investi entièrement, il va faire un choix professionnel qui va lui coûter son poste. Donc le film raconte cette histoire, mais aussi le avant-après. Et puis je voulais peut-être rajouter simplement que Ceux qui travaillent, c'est un grand projet d'une trilogie. Donc ça serait le premier volet d'une trilogie. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire la suite. Donc ça, je vais vous laisser nous le dire. Donc peut-être dans un premier temps, alors soit vous voulez compléter cette petite présentation, soit vous pouvez enchaîner sur justement le contexte dans lequel vous avez fait ce film, pourquoi vous avez fait ce choix de travailler de cette façon-là, et puis ce que vous avez rencontré sur votre route au fur et à mesure de la progression de ce travail. Alors, oui. Je vous donne mon micro.
Bonjour. Oui, donc ce qui m'a amené à ce film, ce qui m'a amené à parler du travail, c'était ce projet de trilogie. J'avais prévu de faire trois films qui s'appelaient Ceux qui travaillent, Ceux qui combattent et Ceux qui prient. Et donc le point de départ était un peu théorique. Voilà, qu'est-ce que je peux faire comme constat sur le travail aujourd'hui, avec la particularité d'être suisse. Et en Suisse, on a un problème, c'est la France. C'est-à-dire, je vous embête un petit peu dès le matin. Non, c'est en fait, il y a un truc marrant, c'est qu'on regarde le cinéma français, on écoute les histoires françaises. Il y a une forme d'impérialisme culturel comme celui qu'on peut avoir avec les États-Unis en France. C'est-à-dire que c'est un grand pôle qui produit des histoires. Et dans ce cinéma social qui est celui que je veux faire, c'est assez drôle parce que comme cinéaste, je me suis vite retrouvé à raconter des histoires qui étaient en fait françaises, sans m'en rendre compte, parce qu'on ne voit que on a une espèce de domination des histoires françaises, et il y a un défi qui est celui de raconter notre réalité suisse, qui est pas la même en fait. Et au début, j'ai commencé à faire un film sur un homme qui se retrouve au chômage, qui se faisait écraser par le système, ce qui est la manière très française de traiter le travail. Bien, assez rapidement, je me suis rendu compte que en fait, on n'avait que 3% de chômage et que ça baissait chaque année et qu'on était dans le risque de tomber dans des chiffres négatifs de chômage qui auraient créé une espèce de trou noir. On ne sait pas très bien ce qui se passe à ce moment-là. Et qu'il y avait une forme d'illégitimité de parler du travail comme on le faisait en France. Mais qu'en fait, c'est pas parce qu'il y avait très peu de chômage qu'il n'y avait pas, en fait, des nouvelles questions à poser. Et c'était assez intéressant parce que je me suis retrouvé à me poser des questions. En fait, qu'est-ce qui ne marche pas dans un système même quand il marche? Et ça m'a en fait beaucoup aidé dans mon film à trouver le sujet. Et ça m'a, ouais, c'est ça. Ça m'a permis de poser ces questions-là de qu'est-ce qui continue à coincer même quand le système marche comme il devrait un petit peu. J'ai discuté donc avec pas mal et donc le traitement du l'angle par lequel je parle du travail était déjà, je trouve intéressant d'en parler du point de parler du d'école blanc de cette classe plutôt dominante et du rapport au travail que j'avais vu chez eux qui était pas le même que le rapport d'école bleue et qui demandait aussi de parler de la place du travail de manière pas simplement vertical, c'était pas simplement l'idée de dire, c'est aussi parce que c'est ce qui m'intéresse dans la fiction, mais c'était pas simplement de dire la société écrase l'individu et mon personnage n'est pas qu'une victime en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel endroit il est son propre bourreau, où il est victime de lui-même et en fait aussi. Par exemple, parce que le truc que j'avais remarqué avec les hommes que j'avais rencontrés dans ces grandes entreprises, parce que c'était surtout des hommes et plutôt un peu de l'âge de mon père, c'était qu'ils avaient l'impression d'être leur propre patron, alors qu'ils étaient salariés. Et c'était très très fort dans les discours. Je me souviens d'un homme que j'avais rencontré qui gérait des navires aux quatre coins du monde, et qui s'était retrouvé donc comme dans mon film avec un clandestin sur un de ses bateaux et qui m'a expliqué que son premier réflexe était de se dire en fait je vais soudoyer le capitaine pour qu'on jette ce clandestin par-dessus bord parce que on va perdre 4 jours et ça va coûter $150,000 et c'est moins cher de soudoyer le capitaine. Je vais devoir payer $150,000 avec mon portefeuille. Donc, chose étonnante, c'est que c'est pas son argent, mais il parlait comme si c'était son argent. Et donc, en fait, il était prêt à se compromettre moralement de la manière la plus radicale qu'on puisse imaginer pour de l'argent qui n'était pas à lui. Et donc ça voulait quand même dire que il y avait une confusion sur le fait qu'il était en fait employé là. Et ça parlait aussi de la évidemment de la virtualité du rapport qu'il avait au monde, parce que ce qu'il m'a dit c'est qu'il s'est souvenu qu'il y avait des histoires comme celle-là et qu'on avait réussi à inculper tout le monde depuis les marins jusqu'aux gens dans les bureaux et que tout le monde avait fini en prison et que c'est là qu'il s'est dit non mais bon en fait je vais payer mais ça l'emmerdait, il m'a dit c'était ouais ça me faisait chier, il me disait c'est 150 000 $ ou un bout de bois me disait-il. Il était hyper vulgaire et c'était hyper violent, mais il m'a dit c'est que 3 semaines plus tard que je me suis rendu compte en voyant la photo de la personne qui était sur le bateau avec le maillot de foot de l'équipe que j'aimais, que je me suis rendu compte que c'était une personne et pas un problème. Je trouvais que c'était super c'était abominable, et en même temps ça racontait un rapport de semi-virtualité au monde, c'est-à-dire et de sous-traitance de la violence, c'est-à-dire que ça m'a posé plein de questions qui sont centrales au film, c'est voilà, est-ce que quelque chose d'affreux qui se passe à l'autre bout du monde, est-ce qu'on est encore capable de se rendre compte, est-ce qu'on est capable d'avoir un mécanisme d'empathie, et voilà, et pour moi ça parlait de beaucoup de choses en fait, non seulement de cette violence, de cette distance par rapport à la violence, mais il y avait aussi ce rapport au travail où on a ce type qui a l'impression d'être son propre chef, il fait ses propres horaires, il a son propre portefeuille, et en fait le rapport de domination c'est plus simplement un rapport vertical où il a un patron qui le force, c'est pas le travail qui le force, c'est on attend de lui qu'il s'auto-aliène en fait. Et ça m'a amené à un endroit où j'ai commencé à parler de la violence qu'il peut y avoir à donner toute son identité sur son travail. C'est un truc que j'avais vu chez ces hommes hyper fréquemment, où lorsqu'ils perdaient leur emploi, ils avaient le sentiment de ne plus rien être. Et je l'ai trouvé complètement fou. Je me suis dit, c'est complètement fou d'avoir laissé autant de place au travail dans ta construction identitaire. Et s'il y avait une lâcheté derrière terrible aussi, parce que ça leur permettrait de ne pas être des pères, de ne pas être présents. Donc c'était aussi un endroit où ils étaient réfugiés. Ils étaient là que par l'argent qu'ils amenaient, par leur travail, par leur sacrifice. C'est une manière très malsaine de s'aimer. Mais bon, qui est aussi un vieux modèle qui, à mon avis, est en déclin. Mais que j'avais envie de... Voilà, il y avait là-dedans plein de choses qui m'avaient beaucoup touché. Donc c'est un peu les choses que j'ai pu explorer.
Cette violence-là, on la retrouve aussi au sein de sa famille, parce que dans le film, ce personnage a une famille avec 5 enfants, je crois. Hein, et on se rend compte que cette famille, qui est d'abord choquée par son geste, ne veut quand même pas renoncer à son niveau de vie et attend peut-être quand même de lui avant tout ce qu'elle a l'habitude de recevoir, comme peut-être nous-mêmes. Il y a aussi une scène, je vais vous laisser peut-être le développer, et ça me fait relier ça à une scène vraiment intéressante aussi où il montre à sa fille, pour expliquer à sa fille ce qu'est son travail, or il n'a plus de travail mais il va lui montrer toute une chaîne de distribution de nourriture dans une grande surface, et ensuite il l'emmène aussi dans un port pour qu'elle comprenne que les objets qu'elle consomme tous les jours, quelqu'un les a acheminés, en tout cas, parce que lui, c'est vrai que son travail, c'est plutôt l'acheminement, le fret.
Oui, il y a un truc intéressant aussi avec sa famille, c'est qu'eux, ils sont comme nous, les consommateurs. Il y a un truc qui m'a intéressé aussi, c'est que à Genève, on a tous ce trade international, etc. Et je me suis surpris à avoir une espèce de jugement hyper violent à l'emporte-pièce sur ces hommes en costume, en me disant que eux étaient le capitalisme, les monstres, et que c'était les responsables de tous les problèmes du monde. Et que moi, j'étais super parce que je travaille presque pas, je suis un artiste, je fais ce que je veux, et donc moi j'ai raison et eux ils ont tort. Et je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux être aussi bête et prétendre à faire du cinéma alors qu'en fait tu es en train de créer une espèce d'altérité chez ces gens, et t'as quand même en fait dans ta poche un téléphone portable qui est fait en Chine par des gens qui vivent dans des conditions de quasi-esclavage et qui sont amenés par ces gens en cravate. Donc en fait, quelle est ta place toi? Quelle est ta complicité là et pourquoi est-ce que et ça veut dire quoi de se distancier en disant le mal est ailleurs? Et donc j'avais ce besoin d'avoir cette famille qui condamne la violence que fait le personnage principal, qui contrairement à la personne que j'ai rencontrée n'a pas changé d'avis dans mon film concernant le clandestin. Et en fait, je trouvais très intéressant d'avoir cette famille qui le condamne, mais qui en fait profite complètement de sa violence. Et en fait, de dire qu'à un moment donné, de poser cette question-là, de est-ce qu'à un moment donné, une violence n'est pas aussi quelque chose qui nous arrange tous, dont on a peut-être même besoin, ce qui est terrible comme idée. Je voulais pas épargner le spectateur de dire en fait voilà, on est aussi tous acteurs dans ces systèmes-là et qui sont effectivement au final, comme on le voit dans le voyage qu'il fait avec sa fille, les systèmes qui nous nourrissent, qui remplissent nos supermarchés. Simplement, je pense de nouveau pour parler de cette idée de semi-virtualité ou de désir de ne pas regarder les choses en face. On veut que ce système soit caché pour avoir le confort de s'en désolidariser.
Oui. Avant que l'on poursuive, est-ce que vous peut-être pouvez consacrer quelques minutes à nous parler de l'écriture comment vous avez abordé la question sur le plan professionnel, l'écriture du film, le tournage, ce à quoi vous avez été confronté, puis ensuite on pourra passer la parole à Chloé Chaboureau.
Après l'écriture, la réalisation, tout ça c'est assez technique en fait, c'est-à-dire qu'on c'est un métier qui est le nôtre, qui est très particulier, qui ressemble, je sais pas à quel point il ressemble à d'autres boulots, mais on est tout seul, un peu livré à soi-même dans un monde ultra compétitif où tout le monde on doit essayer de faire des concours pour gagner des bourses et des trucs comme ça, en faisant un film sur le travail alors que moi j'ai jamais fait un travail normal. Après voilà, un seul jour de ma vie quoi, enfin voilà. Enfin, j'ai bossé un peu dans une usine pendant un mois mais enfin voilà. Mais ça pose aussi des questions quoi, c'est hyper bizarre, c'est mais bon, en même temps on raconte toujours la vie et le travail de gens, enfin quand on fait un film, on racontera toujours la vie de quelqu'un qui n'est pas du tout comme nous. Et donc après une partie du boulot, c'est de rencontrer, de discuter. Mais c'est aussi vraiment d'inventer, quoi. C'est d'arriver à mettre un système en place. C'est toute la technique scénaristique, etc. C'est comment faire pour se poser des questions dont on n'a pas la réponse et poser des questions au spectateur dont il n'a pas la réponse, de rester pertinent, etc. Et après mettre ça en scène de sorte, voilà. Pour en tout cas dans mon travail, c'est un travail de vraisemblance. Je pense qu'il y a quelque chose de très important de créer quelque chose qui a l'air vrai, que ce soit vrai ou c'est pas documentaire, c'est pas des sciences sociales. Moi, c'est très important d'arriver à dire qu'il y a une différence entre. On n'est pas là pour dire la vérité quand on fait des films. Au contraire, on est là pour dire autre chose. On est là pour montrer des gens qui se trompent, pour montrer le contre-exemple aussi, montrer des fois ce qu'il faut pas faire ou l'exception. Et ça, c'est ces zones-là qui sont intéressantes à explorer. Et je trouve que dans le travail de, quand on est vraisemblable en fiction, ça veut déjà dire qu'on dit une vérité. C'est-à-dire que c'est pas une vérité scientifique ou objective, mais c'est une vérité dramatique. Et cette vérité dramatique, elle est presque plus importante des fois que la vérité, parce que si quelque chose nous semble vrai et résonne en nous, ça veut dire que ça résonne avec notre conception du réel, qui est ce qui nous guide dans la vie, quoi. Et donc, quand je regarde les scènes que je tourne, pour moi, c'est toujours très important de savoir est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. Et souvent, quand j'y crois pas, c'est que je me dis voilà, en fait, c'est qu'elle ne raconte pas quelque chose de vrai. Et donc, ça, c'est des choses qui disparaissent ou se transforment à la mise en scène ou au montage. Et donc je sais pas très bien comment répondre à cette question de comment ça se fait, mais voilà, bon, ça se fait comme un film se fait, quoi. Mais ouais.
Donc je vais peut-être passer bientôt la parole donc à Chloé Chaboureau, donc dont nous avons passé hier soir le film Le Loup d'or de Balolé, avec un débat avec le public qui était vraiment très intéressant. Donc votre biographie que j'ai mélangé avec un article de Jeune Afrique me dit que vous êtes burkinabé expatrié en France depuis 2010 et vous êtes écrivaine et journaliste aussi. Au départ, vous avez été aussi journaliste pour la télévision aussi d'ailleurs, pour la radio, pour la presse écrite. Vous publiez encore des romans, notamment Parole d'orpheline, qui est un roman très remarqué. Et puis peut-être tout à l'heure, vous pourrez parler avec le public de vos autres travaux. Et au niveau pour le cinéma, vous êtes progressivement tourné vers l'audiovisuel. Et vous avez fait déjà plusieurs films. Je crois savoir, oui, que celui-ci est votre troisième long métrage, n'est-ce pas ? Je parle pas trop des autres parce qu'on va peut-être garder plus de temps pour l'échange. Du coup, je vais vous poser un petit peu les mêmes questions qu'aux autres intervenants, hein, la genèse de votre film, ce à quoi vous avez été confronté en le faisant, votre point de vue sur ce que ça veut dire filmer le travail. Voilà, je vous laisse la parole.
Bonjour à tous. Sans inquiéter, je vais juste préciser que vous allez avoir l'impression que je respire bizarrement par moment. J'ai une petite crise d'asthme. Il n'y a rien de grave, promis, je ne vais pas m'évanouir. Et juste, je le dis aussi pour mes voisins, parce que si vous aviez eu l'impression que je soupirais, ce n'est pas du tout du soupir, je cherchais juste de l'air. Voilà, mais tout va bien. C'est juste préciser, parce que voilà, ça va donner cette impression-là par moment. Mais avant de commencer à répondre à la question... je vais juste parler un tout petit peu, je vais juste un peu résumer mon film, parce que pour pouvoir faire la genèse, voilà. Alors, ça se passe à Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso. Il y a un endroit très singulier, une sorte de trou gigantesque, une bouche fumante d'une petite dizaine de kilomètres de circonférence, d'une profondeur de quelques dizaines de mètres, où évolue en autarcie une communauté de 2500 personnes qui se revendiquent être les gens du trou. Voilà, c'est une sorte de ville, à la fois au cœur de la ville parce que c'est en pleine ville finalement, sous la ville parce que c'est un trou et c'est un endroit ignoré de tous, même des riverains qui habitent dans le quartier, et c'est une carrière de granit. Et qu'ils naissent là, qu'ils grandissent là, qu'ils vivent là, et qu'ils meurent là et qu'ils soient enterrés là, qu'ils cassent tous les jours, brûlent parce qu'ils brûlent des pneus pour fragiliser la roche pour pouvoir mieux la concasser, qu'ils la chargent sur leur tête pour monter sur des pentes, qu'ils la transbordent, qu'ils l'extraient, qu'ils piquent, qu'ils concassent. Tout ça ne fait pas que les casseurs de balolé se définissent d'abord comme des travailleurs, ils se vivent d'abord comme les gens du trou. Et c'est pourquoi quand j'ai reçu d'ailleurs l'invitation pour prendre part à cette table ronde sur la thématique « Comment filmer le travail ?», dans un premier temps, je me suis demandé si j'étais légitime à aborder cette thématique, parce que les gens que j'ai filmés, même s'ils font toutes ces activités dont je viens de parler, ils se définissent d'abord comme les gens du trou et ils sont pas dans une conception de faire un travail. Ils sont plus qu'ils ne font. Et j'ai noté tout à l'heure, pendant l'intervention que j'ai trouvée très brillante de Jean-Claude Géin, la conception du travail, qui est une conception relativement nouvelle, qui prend en compte la dignité, la liberté, les contrats de travail, tout ça. On n'est pas du tout dans tout ça là-bas. On est dans une mine où on est casseur de père en fils, de mère en fille. On est là, on casse là et on grandit là et on meurt là et on nourrit cette terre, comme ils disent, parce que cette terre les nourrit parce qu'ils extraient le granit qui est vendu, pas par eux. Ce que devient d'ailleurs ce qu'ils extraient ne les concerne même pas jusqu'au début du film. Et ce n'est que parce que arrive une insurrection dans la ville, puisqu'ils sont au cœur de la capitale, et en 2014, il y a une insurrection contre un régime qui est vissé au pouvoir depuis 27 ans, et ils montent de leur trou, ce trou où ils sont, et ils sont ignorés de tout le monde, et quand ils montent, leur nombre fait que l'insurrection va très vite, et en 3 jours, le régime est à terre, parce que 2500 personnes qui montent pendant une insurrection, ça compte. Et l'histoire ne les retient même pas. C'est-à-dire que les analystes, les journalistes, tout le monde parle de la participation des étudiants, des femmes, qu'on salue, parce que c'est pas tous les jours que les femmes sortent dans les insurrections en Afrique de l'Ouest. Et personne ne se demande si les casseurs de balolé sont remontés de leur trou, puisqu'on ne sait pas qu'ils existent. Quand on n'existe pas, on n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que eux, ils retournent dans leur trou et ils se disent, il y a comme un vent d'émancipation qui souffle sur les esprits et tout d'un coup, ils se disent, si on a pu participer à renverser un régime, eh bien, on peut prendre notre destin en main. Voilà. Et ça devient un peu l'histoire du film, mais pour maintenant répondre à la question, pour revenir en arrière et répondre à la question, pourquoi ce film? Moi-même, je découvre cet endroit tout à fait par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait mon école primaire à 2 kilomètres à vol d'oiseau de ce trou. Et j'ignorais que ce trou existait, comme la plupart des habitants de cette capitale. Et je viens là parce que quand on passe sur la route, on voit ces monticules de cailloux entassés, qui sont des milliers d'aires de travail entassées. Hein. Et comme tout le monde, je pensais que c'était un marché aux cailloux. Et je viens là juste pour filmer ces dames qui ont 75 ans, 80 ans, qui continuent de concasser et qui sont très belles par ce truc. Et je viens pour filmer ça pour un précédent film. Et il y a quelqu'un qui me dit, il y a un jeune homme qui vient me voir et qui me dit, si tu me donnes la pièce, tu vas pouvoir passer derrière et filmer le trou. Je lui dis, quel trou? Et là, il me regarde comme si je, d'où elle vient celle-là. Mais tu penses que ça vient d'où les cailloux? Qui me dit, bah, je dis pas, j'en sais rien. Et donc, avec mon équipe blanche, je lui donne la pièce et il nous fait slalomer entre les monticules de cailloux et à quelques mètres, vraiment, c'est là et la salle d'à côté, s'il y avait une salle à côté, on découvre cet endroit, cette sorte de faille spatio-temporelle, en fait. Quand on arrive, ça vous saute à la figure. On a vraiment cette impression d'être pris, d'être happé, d'être amené ailleurs. Parce que c'est un univers visuel très, très particulier et à la fois un univers sonore très particulier. Mais tant qu'on n'est pas au-dessus du trou ou dans le trou garde tout. Il y a ces fumerolles-là parce qu'ils brûlent les pneus pour fragiliser la roche. Les fumerolles qui se mélangent à la poussière rouge de la latérite, qui se mélangent à la poussière grise du granit, qui montent du trou, mais qui restent au plafond du trou. Il y a ces 2500 personnes qui cassent en même temps, donc une fourmilière humaine, il y a tous ces cliquetis du marteau sur la pierre. Tous ces bruits-là sont étouffés par le trou, dans le trou. C'est-à-dire que quand on s'éloigne du trou de quelques mètres, on n'entend plus rien et on ne voit plus rien. On a que les odeurs des pneus brûlés. Et tout d'un coup, quand on arrive et qu'on voit ça, ça nous saute complètement à la figure et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai atterri? Et cette impression que ça m'a fait au départ, je me suis juste dit, je peux pas passer mon chemin en tant que cinéaste comme s'il y avait rien. Je vais faire un film pour montrer cet endroit très particulier, pour le visuel que ça a, pour enfin, cet univers très particulier. Et très vite, le film devient l'histoire d'une lutte parce qu'au moment où je découvre le trou, c'est le moment où celui qu'ils appellent l'intellectuel du trou, Ablacé, c'est le seul qui sait à peu près lire et écrire, pas totalement, mais un peu. Il est dans cette fibre militante de se dire, on a participé à renverser un régime, donc on va s'organiser et on va plus passer par les intermédiaires de vente, on va essayer de vendre directement nos cailloux pour vivre du fruit de notre travail. Donc c'est à peu près le moment aussi où ils commencent à eux-mêmes s'installer dans une idée que ce qu'ils font est ce qu'ils font et pas juste ce qu'ils sont. Que c'est quelque chose qui peut être extérieur à eux et que ça a un lien avec le reste de la ville. Et au début du film, Ablacé le dit, mais il y a un pont en fait entre notre sueur et ces belles maisons qu'il y a dans la capitale. Mais avant, ils se posent pas cette question-là. Avant, ils sont les gens du trou qui naissent là, qui cassent là, qui vieillissent là et qui meurent là et qui sont enterrés là et qui, comme ils disent, nourrissent le trou comme le trou les nourrit. Et donc, il y a ce vent d'émancipation. Ils commencent à se dire, mais c'est un travail ce qu'on fait là. Ça participe à faire des ponts hors du trou, à faire des routes, à construire des belles maisons que nous ne pourrons jamais habiter. Et il y a donc cette lutte qui se met en place, cette conscientisation qui démarre, et c'est le moment où moi je découvre l'endroit, et donc je fais ce premier tournage, je filme moi-même les premières images quand les jumeaux ont 13 ans, alors que je suis pas cadreuse, et d'ailleurs on voit dans mon film qu'il y a deux qualités d'image, parce que voilà, c'est pas mon métier, et j'essaye quand même de prendre le début, parce que je pouvais pas, j'avais pas le temps de me dire, je vais revenir en France, monter des dossiers, comme dit Antoine, participer à compétir dans des commission pour avoir de l'argent pour repartir filmer parce que bah, le réel il était là à ce moment-là et il fallait le prendre à ce moment-là et donc je commence à filmer cette lutte qui se met en place et eux-mêmes ne se vivaient tellement pas comme étant dans une logique de travail, dans une relation de travail par rapport à cette activité, c'était plus tellement plus ce qu'ils sont et l'héritage de leur vie et leur identité plus que ce qu'ils faisaient que moi-même j'ai pas eu le sentiment, à aucun moment, je ne me suis posé la question si j'étais en train de filmer le travail. J'ai pas eu cette sensation-là. J'ai filmé une communauté, les gens du trou, et ce qu'ils font, qui est leur seule occupation, hein, que ce soit en termes de loisirs ou de travail, puisqu'ils font rien d'autre tous les jours de la semaine, 7 jours de la semaine, toutes les journées, du matin au soir, ils cassent. Ils cassent, ils concassent, selon l'âge, selon le sexe, les hommes cassent avec des, je connais pas le nom de l'outil en français, voilà, avec des grosses masses. Les femmes sont assises, elles concassent un petit caillou et les enfants reconcassent derrière leur mère, soit pour donner des plus petits cailloux, soit pour donner une sorte le sable issu du granit, mais ils cassent et à la fois c'est juste ce qu'ils sont, c'est les gens du trou, et moi je filme, et même quand ma caméra s'attarde sur ces corps un peu animal qui se donnent, qui s'oublient complètement à l'ouvrage, et ces muscles, ils se gonflent par l'effort, tout ça, je suis toujours dans l'idée de filmer les gens du trou plus que dans l'idée de filmer le travail. Si à un moment donné je me suis posé la question de filmer le travail, c'est quand je suis sur les enfants, parce qu'à un moment donné j'ai peur que dans ce film on reçoive ça comme le travail des enfants, parce qu'il y a des enfants qui n'étaient pas scolarisés au départ du film. Ils vont faire leur lutte qui va changer leur condition de vie. Au milieu du film, les enfants commencent à être scolarisés. Mais au départ, ils sont pas scolarisés et ils cassent. Et je me suis dit, mais j'aimerais pas que le film soit reçu comme le travail des enfants, ou reçu comme si je voulais montrer la précarité, la dureté, l'âpreté de ce lieu, parce qu'ils sont tellement autre chose. Ces gens qui sont tellement debout et qui sont pas dans un rapport ni de dureté à ce qu'ils font. Et à ce qu'ils sont d'ailleurs. Et donc je me suis dit, comment je fais pour ne pas tomber dans ce regard, pour que le spectateur ne reçoive pas ça comme le premier propos du film. Donc je me pose quand même cette question-là à ce moment-là sur les enfants. Et j'ai tenu à donner des jumeaux, donc de tous les autres enfants, tout ce qui constituait, c'est pas possible, mais élargir le spectre de ce que je montrais des enfants, c'est aussi des jumeaux qui se tapent entre eux, qui vannent l'équipe, qu'ils oublient qu'ils ont des micros sur eux quand on les filme, qui disent ils ont qu'à aller se téléviser eux-mêmes. Ces clowns-là, c'est quoi ces gens qui viennent mater les gens quand ils vivent, tout ça. Et quand la mère dit il faut casser rapidement, ils disent non, mais je vais prendre mon temps, c'est toujours ça de moi à faire. J'ai essayé de montrer tout ce qui pouvait constituer, enfin tout non, mais le plus de choses qui pouvaient constituer leur identité, pour ne pas les faire tomber dans ce cliché, dans cette tentation de les mettre dans un tiroir qui est le travail des enfants. Voilà, et de façon générale aussi, il était important pour moi que ces gens-là qui ne vivaient pas ce qu'ils faisaient ni juste comme du travail, ni juste comme une aliénation, ni juste comme une précarité, et qui étaient des gens tout à fait debout et tout à fait dignes, que le film montre tout cela dans sa globalité et montre la lutte aussi dans sa globalité. La lutte, que ce soit quand elle est consciente ou quand elle est inconsciente. Du coup, en fait, je ne sais pas si on s'en rend compte, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais quelquefois, certaines personnes s'en rendent compte lors de projections et attirent mon attention là-dessus, et ça me fait vraiment plaisir. Mais chaque scène de mon film, en fait, raconte la lutte en miniature. Chaque scène raconte le thème principal qui est la lutte. Que ce soit quand les femmes dansent, la force, elles viennent se cogner les fesses, la force des fesses, que celle qui n'a pas de force dans les fesses quitte le cercle, que ce soit les poulets qui se battent pour manger, que ce soit la belle-mère ou la belle-fille. Elle casse pour donner à des gens qui les exploitent, mais t'as toujours une belle-mère qui trouve le moyen d'engueuler sa belle-fille parce que c'est pas assez bien cassé. Il y a toujours, chaque scène raconte le rapport à la lutte, et le fait qu'on est tous, eux, nous, vous, on est tous en train de négocier, de prendre, d'arracher sa place par rapport à l'autre. Voilà. Et par rapport à la dignité, j'ai appris, et je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup appris en faisant ce film. C'est mon troisième long, mais j'ai appris à faire la différence en faisant ce film-là entre la pauvreté, c'est-à-dire le dénuement, qui est le fait de ne pas avoir les choses, de ne pas posséder les choses, le dénuement, et la misère, qui, elle, est l'aliène. La pauvreté n'aliène pas. La misère, c'est le fait de dire « je n'ai pas, donc je ne suis pas », alors que la pauvreté, c'est pas ça. La pauvreté, on peut ne pas avoir, mais ne pas être complètement sujet à cela. Et à Balolé, il y a le personnage Ablacé qui crée l'association pour défendre les droits des casseurs et qui prend conscience que ce qu'ils font, c'est du travail et ça a une valeur, et qui transmet cette fibre militante aux autres. Il lui donne ce surnom, le loup d'or de Balolé, enfin le loup d'or, pour le remercier de cela. Mais dans ce trou-là, ils ont tous des surnoms. Pas des surnoms que les autres donnent, mais des surnoms qu'ils se prennent. Il y a millionnaire, il y a américain, il y a king dollar, il y a les femmes aussi qui ont leurs surnoms. Et quand ils arrivent le matin et qu'ils se tapent dans la main en disant « Américain, est-ce que tu as bien dormi ?» C'est pas juste des mots. C'est vraiment, il y a une part d'eux, ils le vivent vraiment, et tu le vois et tu le sens. C'est une façon de dire à la vie « tu ne m'empêcheras pas d'être ». Je suis ce que je suis, ne serait-ce que dans ma tête. Et ça, rien ne peut me l'enlever. Et ça, c'était très fort. Et c'est pour ça aussi que j'avais peur de faire un film qui s'attarde trop sur la dureté et sur la pauvreté et sur leurs conditions de vie. De peur d'étouffer tout ça qui était grand et beau et fort et qu'ils portaient profondément en eux sans même s'en rendre compte.
Bien, alors on va... Donc on va passer bientôt la parole à Sébastien Jousse. Donc dans la petite biographie que j'ai là, vous dites, mais vous allez sûrement développer ça plus tard, que vous vous intéressez surtout à la dimension créatrice, émancipatrice du travail, au travail vivant. Vous avez réalisé entre autres deux films que l'on a passés ici et aussi je crois dans le festival Écran Total donc avec Luc Joulet, C'est quoi ce travail et Cheminot. Donc, je me souviens très bien des débats qu'il y avait autour de ces films. Je me souviens pas par contre si c'était dans Écran Total dans une autre salle ou ici à mon ciné. C'était ici aussi, voilà. Donc, dans C'est quoi ce travail qui a été coproduit d'ailleurs ou produit je ne sais plus par Tech Criac, c'était en 2015. Coproduit. Donc vous filmez un travail à la chaîne dans une usine qui produit 800 000 pièces auto par jour et je ne me souviens pas le nom de l'entreprise.
PSA,
oui, voilà. Et puis dans ce film aussi, ce qui était remarquable, c'était la création musicale de Nicolas Frise qui a été faite en même temps que votre travail. Et il y a une voix off aussi qui accompagne les différents moments de ce film. Bon, il est dur à résumer. C'est un film qu'on avait beaucoup apprécié. Vous en parlerez mieux que moi. Et puis, je me souviens aussi des débats autour de Cheminot, qui lui date, je pense, de 2010, avec des cheminots de la région PACA. C'était le moment de la privatisation de la SNCF, plus ou moins, il me semble.
Ça avait... Le passage à la concurrence.
Oui, c'est ça, l'ouverture à la concurrence. Et on voyait donc des débats extrêmement contemporains sur sur cette situation de mise en concurrence et aussi sur cette fragmentation de l'entreprise, puisqu'on voyait des cheminots s'interroger sur ce qu'allait devenir leur travail, mais aussi le service rendu aux usagers avec cette fragmentation. Je vais vous poser les mêmes questions qu'aux autres. Hein. Pourquoi, comment vous avez fait ces deux films-là ou peut-être d'autres? Est-ce que vous avez à nous en dire? Voilà, je vous laisse enchaîner.
Je vais m'empresser de ne pas y répondre, mais...
Mais vous pouvez.
En fait, avec Luc Joulet, depuis 2004, on développe un travail cinématographique qui est vraiment centré sur la question du travail. Donc, on a fait un premier film qui s'appelait Les réquisitions de Marseille, qui était un film qui racontait la libération de Marseille, en fait, qui s'est faite grâce au mouvement de résistance. Les entreprises sont reparties sans les dirigeants, parce qu'ils étaient extrêmement compromis dans la collaboration. Et De Gaulle voulant pas que les Américains prennent possession du port de Marseille, il a envoyé Raymond Braque pour trouver une solution avec les syndicats. Et donc, ils ont créé un système de réquisition avec des comités de gestion, ce qui a créé un scandale immédiat politique, mais qui a donné lieu à pendant 2 ans, 3 ans à une expérience ouvrière de 15 000 ouvriers qui a débouché sur des choses assez extraordinaires en termes de, et c'est ce qu'on voulait raconter. Je crois, alors Luc et moi, on vient tous les deux de parents très 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 engagés, syndicalistes, militants communistes et tout ça. Je pense qu'on a voulu nous aller chercher dans le travail quelque chose qui était un petit peu qui nous permettait un peu de tracer notre propre chemin. Sur la question notamment de... je vais reprendre le terme de trou noir, parce que je pense que ça parle de ça aussi, le trou noir que constitue l'intimité au travail, c'est-à-dire vraiment l'intime, ce que crée le travail à l'intérieur de nous-mêmes. Antoine le décrit très bien avec ce clivage terrible de gens qui sont des bons pères de famille et puis qui sont capables de faire assassiner quelqu'un uniquement parce que ça va coûter 150 000 dollars. Et puis cette question aussi de ce côté que c'est plus un travail, c'est une identité. Et on a eu la chance, à la suite des réquisitions, de rencontrer le CE des cheminots PACA, qui organisait des résidences d'artistes, mais qui n'avait jamais fait de cinéma, qui nous ont ouvert les portes de l'entreprise pendant 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi, ouais, pour faire un film documentaire qui s'appelle Cheminot. Et on est parti de cette base-là, c'est-à-dire qu'en fait, Cheminot, c'est pas un métier, c'est quelque chose qui décrit une culture née du travail. Et on est allé voir chaque chaque personne pour essayer de trouver en eux-mêmes comment cette culture avait sédimenté. C'est-à-dire avec ce va-et-vient, c'est-à-dire que le travail à la fois sédimenté quelque chose en eux, et eux, par le collectif qu'ils ont créé, qui est une culture de réseau, hein, est indispensable, ils ont structuré quelque chose qui forme une culture. Et cette culture qui, au moment du passage à la concurrence, est totalement détruite par le fait qu'on découpe tout en activités pour définir celles qui sont rentables et celles qui ne le sont pas. Et donc, finalement, on arrivait dans le film à voir un aiguilleur qui ne pouvait plus parler aux machinaux de la machine, puisque c'était une machine Veolia d'une entreprise privée, et que le gars partait avec sa locomotive sans même attendre l'ordre avec une destruction complète des choses. Et pour poursuivre, c'est quoi ce travail? C'est fait de manière totalement fortuite grâce à Nicolas Friese, qui est rentré en résidence dans une usine PSA qui était en plein centre-ville de Saint-Ouen, mais complètement ignorée du tissu urbain, en fait. Et puis il y a un moment, je sais pas si vous avez vu le film, mais il y a un moment où le public a le droit de venir visiter l'entreprise, et ils sont stupéfaits, ils sont totalement sidérés de voir ces machines, ces choses là ce qui traduit finalement, moi je pense, un trou noir organisé aujourd'hui par les pouvoirs dominants, où aujourd'hui l'entreprise est considérée comme un trou noir. Voilà, c'est-à-dire que qui interdit tout regard extérieur autre que celui de la com, celui de la publicité et du management, en fait. D'où nous maintenant aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on a fait c'est quoi ce travail. On a du mal à trouver d'autres lieux pour nous laisser rentrer dans le travail et nous permettre de faire notre travail, qui est un travail subjectif. Nous, en tant que cinéaste, on ne cherche pas à informer, à donner des informations. On cherche à faire vivre une expérience qui permette aux gens, à l'intérieur, au moment d'une projection de cinéma, voilà, qu'on revendique, on ne travaille pas pour la télévision, on ne va jamais solliciter les... Enfin, pour les deux derniers films, on n'a pas cherché à solliciter les fonds télévisuels, parce que pour nous, c'est mort, moi, je pense, de faire vraiment des choses un petit peu complexes maintenant, sur ces questions notamment du travail, et de parier plutôt sur ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire ce que Godard appelle le transport en commun de la salle de cinéma, quoi. C'est-à-dire le fait que le film n'est pas... ne cherche pas à avoir le dernier mot, mais plutôt est le début d'une discussion, le début de quelque chose, le début d'un échange. Et donc voilà. Et donc moi, je suis à un moment de mon travail un peu particulier, c'est que aujourd'hui, je fais plus de cinéma avec les scientifiques. Je fais partie du laboratoire de psychodynamique du travail de Christophe Dejour. Je suis cinéaste embarqué, voilà. Donc je participe à des cliniques, à des terrains avec eux, avec les outils du cinéma. C'est-à-dire, s'il ne s'agit pas d'être une caméra de surveillance qui enregistre quelque chose qui restera, comment dire, un corpus scientifique à analyser, je suis à la table et j'ai toute liberté de faire ce que je veux avec un ingénieur du son au moment notamment des délibérations ou alors de moments de travail. Le cinéma sert aussi à la clinique, c'est-à-dire qu'il arrive aussi qu'on reprojette des choses aux personnes qui font partie de l'étude, qui sont les sujets de l'étude, et je les filme en train de regarder ce qu'ils regardent. Et après, on rediscute, et ainsi de suite. On arrive là, par contre, à un moment un petit peu où ça bloque. C'est pour des raisons financières, c'est-à-dire que l'Institut n'a pas les moyens de financer des montages qui durent très longtemps, et qui nécessite des moyens financiers qu'on n'a pas forcément. Donc pour moi, la clinique cinématographique, pour l'instant, elle est un peu en attente de se terminer sur différents terrains. Et par ailleurs, bon, je suis membre du CA du Festival Film Lettres, parce que j'habite Poitiers maintenant, et mes films sont passés là-bas, et donc je participe aussi avec l'université, avec le Gresco dont fait partie Jean-Paul Géin, à des collaborations avec les les départements de sciences humaines sur les questions du travail. C'est-à-dire que là, cette année, par exemple, on a fait une journée d'études où, en fait, nous, cinéastes, avons été filmés des choses en discussion avec les enseignants-chercheurs pour confronter un petit peu nos deux cliniques, voilà ce que j'appelle nos deux cliniques, qui sont très importants. Enfin, il est très important d'en rappeler que voilà, la clinique documentaire du cinéma de création, ça n'est pas d'être... de donner une information, de faire du reportage. C'est un autre travail journalistique que moi je respecte, mais je ne sais pas faire, en fait. C'est vraiment d'adopter un regard subjectif sur un univers, comme exactement ce que tu décris, comme, voilà, je trouve le film vraiment très beau, ceux qui travaillent aussi, de permettre aux spectateurs de faire une expérience singulière de ce qui n'est plus le réel, ce qui est une recomposition totale, et à l'intérieur de ça, de se sentir, comme tu disais, concerné ou pas, questionné ou pas, emporté ou pas, voilà, avec cette question centrale qui est l'incarnation. Moi, je pense aujourd'hui que dans le rapport extrêmement complexe de l'intimité, de nos intimités au travail, avec ces phénomènes de servitude volontaire, avec ces phénomènes de clivage, avec ces phénomènes d'attachement farouche à ce travail qui constituerait une identité, et quand on en est privé, finalement, on meurt, on s'asphyxie. On décompense, on suicide au travail aujourd'hui, hein, le travail. Voilà, moi je vous invite à lire ce qu'a écrit Christophe Dejour au moment de sa déposition au procès France Télécom, où il décompose un petit peu en quoi la question du suicide au travail implique directement la question de l'organisation du travail. Voilà, je pense qu'il y a à l'intérieur de ça quelque chose de révolutionnaire, en fait. Que peut-être qui n'est pas facile, en fait, à faire émerger et qui pour moi peut être la source de nouvelles énergies politiques, voilà. C'est-à-dire que cette question de l'individualité elle est problématique dans les mouvements collectifs, et en même temps elle est essentielle à comprendre si on veut retrouver du collectif, et notamment de la question de la délibération dans le travail, la question de rompre avec cette individualisation, cette mise en compétition, ces choses-là, et ton film le montre très bien, c'est-à-dire ce passage au collectif, de cette association, tout d'un coup génère quelque chose qui emporte tout, en fait. Voilà.
Merci. Donc on peut passer... C'est bien, on a du temps, on a trois quarts d'heure. Donc on peut passer à l'échange avec la salle. Et bien sûr, vous pouvez à nouveau aussi interagir entre vous. Et compléter. Oui, tout à fait. Très bonne idée. Oui. Donc de toute façon, je vais vous laisser les deux micros là. Et puis il y a deux micros qui passent dans la salle. Dans la salle, il y a aussi des réalisateurs, des gens qui ont travaillé sur le travail d'une façon ou d'une autre, des syndicalistes, enfin, des gens qui ont des situations professionnelles ou des centres d'intérêt très différents. Donc si vous voulez vous présenter avant de prendre la parole, ça peut être bien, mais vous ferez comme vous voulez. Et puis donc je vous demande des interventions au départ pas trop longues au début, pour que tout le monde puisse vraiment parler, qu'on puisse échanger, quitte à revenir sur un sujet si on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui vont dans le même sens. Il faudrait déjà qu'il y ait une première intervention. Oui, très bien. Alors, le micro, ça va être clair.
Bonjour, donc moi je suis Catherine Cassaro, je coordonne l'association ACRIRA et je suis partenaire, et l'ACRIRA, tiens. L'ACRIRA est partenaire du Festival Écran Total et on travaille aussi beaucoup avec mon ciné. Et donc, je voulais juste un tout petit peu revenir, Jean-Paul, sur... tu as dit le que fait-on des nouvelles images ? Et parmi ce que tu as cité, il me semble que la série... Alors, on va dire, oui, la série, c'est pas du cinéma, sauf que on voit bien que c'est de plus en plus proche. Il me semble qu'aujourd'hui, la série s'empare énormément du travail dans la fiction. Et là, on découvre tout. Hein. On va à l'hôpital, on va dans les tribunaux, on va dans les commissariats, on va dans avec le bureau des légendes dans les services secrets. Ça, on va au monastère. Il me semble que, alors comme souvent, les arts mineurs sont aussi parfois des arts, comme on l'a vu avec le polar, par exemple. Ils vont explorer des choses que peut-être les productions plus reconnues, établies, s'emparent moins ou sont moins financées. Donc voilà. Et donc c'était juste une observation. Et sinon, sur l'ensemble des propos qui ont été tenus, vraiment merci du fond du cœur pour cette présentation que vous avez faite de votre travail. Je me dis, je suis pas sûre de bien comprendre le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans le cinéma, je le comprendrais pas du tout.
Oui, bonjour, Benoît Labourdette, cinéaste et animateur d'ateliers participatifs de réalisation dont on parlera cet après-midi. Quand Jean-Paul vous parliez des nouvelles images, moi ça m'a évoqué des images produites par les gens eux-mêmes sur les réseaux sociaux, qui sont des images qui aujourd'hui, l'image amateur, elle est commerciale, c'est-à-dire qu'elle a, elle produit de l'économie hein, avec les publicités contextualisées, donc elle n'est pas dans un autre champ du travail, en fait, que l'image professionnelle, vu qu'elle produit des revenus. Pas forcément pour ceux qui les font, mais quand même, elle produit des revenus. Et du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et moi, je me questionne beaucoup. Du coup, vraiment, j'ai l'impression que c'est peut-être la prochaine étape de votre conférence. C'est comment les gens filment leur propre milieu de travail et le partagent. Que ce soit d'ailleurs dans le cadre de petits films, je pense évidemment au réseau TikTok, hein, qui est le réseau social majeur aujourd'hui sur la question de la vidéo et de la pratique amateur. D'une part, comment ils se représentent donc par des petits films et par des lives, c'est-à-dire comment aussi en direct il y a une interaction via la représentation de son espace de travail avec les autres. Et puis, par ailleurs, comment la fabrication des images par les gens eux-mêmes est un travail, parce que ça peut produire soit ce qu'on appelle, j'ai employé un vilain mot, du capital social pour eux, c'est-à-dire de la réputation, mais ça peut produire aussi des espèces sonnantes et trébuchantes dès lors qu'il y a une audience. Voilà, c'est une question, une remarque. Voilà.
Oui, bonjour tout le monde, moi je suis Sylvie Dreyfusel-Fonderi. Je fais partie de l'association autour du 1er mai, et là j'aimerais plutôt intervenir avec mon ancienne casquette qui est d'avoir constitué la cinémathèque du documentaire à la BNF dans les années 90, parce que je voudrais un peu réagir à ton intervention sur Paul, parce que il me semble que il y a peut-être une histoire à réécrire. On a dit qu'il y avait une disparition du fait de filmer le travail dans les années 80. C'est un peu quelque chose que j'interroge. Parce que je pense quand même que l'avenue de la vidéo, par exemple, et de la façon dont les féministes, et entre autres Carole Roussopoulos, a pris en charge la question de la vidéo, a filmé énormément de films sur le travail, conchicultrice, des films sur les agricultrices, sur les infirmières, enfin tout plein. Et ça, c'était dans les années 80. Je pense aussi sur tout ce qui a été fait sur la question de la marche des chômeurs par Canal Marche et Patrick Spadoni, entre autres, dans les années 80. Est-ce que filmer les chômeurs, c'est parler du travail? Moi, j'aurais tendance à penser que oui.
parce que c'est leur donner une existence, tout simplement. Il y a tout ce qui a été filmé par les paysans du Larzac dans les années 80. Là, je parle pas du film de Christian Rouault, qui est très récent, mais tout ce qui a été filmé par les paysans eux-mêmes dans les années 80, quand ils ont remonté tous les films Super 8 qu'ils avaient fait. Donc, je pense qu'il y a peut-être une petite réhabilitation à faire sur ce qu'on appellerait le trou noir des années 80. Ça me semble un petit peu plus compliqué. Par ailleurs, je voudrais aussi... Tu as évoqué les frères Dardenne, et je voudrais vous parler d'un film... Parce que si vous l'avez pas vu, il faut vraiment le voir. C'est un film qu'ils ont fait dans les années 60, qui s'appelle « Lorsque le bateau de Monsieur M a descendu la Meuse », qui est absolument magnifique et que je vous invite à programmer. Parce que c'est vraiment un film sur une réflexion sur les luttes ouvrières dans les années 60, sur ce que c'est que de perdre aussi, et qui est vraiment intéressante. Par ailleurs, je crois qu'aussi, et ça, je vous invite à venir si vous habitez Paris ou si vous passez par là, on va organiser avec le CODOS, qui est un centre, une fédération de centres en histoire ouvrière et sociale, dont fait partie 1er mai, et on va organiser 2 journées d'études pour les 20 ans du CODOS, et on va organiser une table ronde sur les gilets jaunes et le cinéma. Et on a trouvé des tas de choses extrêmement intéressantes, ça pourrait faire aussi, à mon avis, l'objet d'un travail à part entière.
Oui.
Oui, j'ai oublié un truc vraiment important, et à mon avis, ça, il faut vraiment pas l'oublier. C'est quand même les 30 films minimum qui ont été faits par les grévistes cheminots en 95. Et ça, il faut pas les passer à l'as. Il y en a une trentaine. Et oui. Il faut vraiment... on en parlera plus après.
Avant de passer la parole à la salle, effectivement, je vais quand même vous laisser répondre.
Oui.
Allez-y.
Oui et non. Non, mais je suis, à part les 30 films cheminots que je ne connaisse pas, je suis tout à fait d'accord, il y a eu de la production, mais je pense quand même qu'il y a eu une réduction de la production filmique. Et puis surtout, c'est le moment où je crois quand même les choses changent, notamment la centration des premiers films sur l'ouvrier, le travail manuel, bon, va disparaître et dans la deuxième période des années 2000, quoi. Bon, il y a quand même une série d'explications. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Celles que tu as citées étaient tout à fait vraies, et puis il y en a d'autres, hein. Mais il me semble quand même qu'on peut maintenir cette idée-là dans l'histoire du cinéma, la relation cinéma-travail. Bon, quand on fait de la chronologie, c'est toujours un peu... Il y a toujours des limites, hein, à une répartition chronologique. Voilà. Sur les séries, bien sûr, mais pour moi, les séries, c'est du cinéma. C'est-à-dire, ça pose pas de problème. Je pense que la télévision, l'intégration de la vidéo et la télévision était plus compliquée. D'ailleurs, moi, je l'ai pas intégré vraiment dans l'histoire de la relation cinéma-travail. Et par contre, moi, quand je dis nouvelles images, c'est pas les séries. Non, elles sont intégrées, à mon avis. Non, quand je parle des images, c'est effectivement cette autoproduction d'images de tous, alors avec des formes différentes. Et effectivement, je crois que Benoît a raison de souligner que est-ce que c'est amateur, est-ce que c'est professionnel? On est là vraiment sur des limites, on va parler de trous noirs, en tout cas sur des espaces vraiment qu'il faut aujourd'hui creuser. Et moi, ce dont je suis frappé, bon, le réseau TikTok, effectivement, j'ai jamais vu d'image de TikTok, et je suis pas le seul dans la salle, je suis sûr. Voilà, il y a des images nouvelles, et ces images nouvelles, alors, elles sont vraiment très nouvelles, effectivement, il n'y a pas longtemps. Mais il y a quand même déjà un moment quand même qu'il y a des réseaux sociaux. Et moi, je connais vraiment très, 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 très peu de travaux, voire pas du tout de travaux en sciences sociales. Et d'ailleurs, sur le documentaire, etc., je connais très, très peu de choses qui parlent de l'image du travail dans les réseaux sociaux. Et puis, on est actuellement dans la revue, donc Imaginaire des images, on est en train de faire un numéro, là, donc il paraîtra dans un an et demi, sur la BD, sur les romans graphiques, en fait, hein, sur le travail dans les romans graphiques. Et on se rend compte qu'il y a un monde aussi, hein. Il y a vraiment des choses à explorer, tout à fait intéressantes. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un autre monde à côté, alors que c'est pareil, que je connaissais pas du tout, qui est le monde des jeux vidéo, qui est énorme, qui produit des images en quantité gigantesque, où le travail est présent. Voilà. Et ça, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me parler de ça? J'en suis pas sûr. Voilà. On a vraiment, aujourd'hui, des espaces vraiment complètement ouverts et en jachère. Moi, je pense en jachère. Voilà. Pardon.
Et, oui, Jacques Toledano, je suis maintenant bénévole dans une série de associations nationales ou locales. Et je voulais faire une remarque par rapport à ce que vous avez dit concernant les évolutions du travail et qui sont malheureusement très invisibilisées, à juste raison, parce que les gros médias sont maintenant contrôlés par quelques milliardaires. Et ils ont installé dans leur rédaction, vraiment, moi, ce que j'appelle d'une façon provocante, et ça, il faudrait faire un travail même là-dessus, des plumes à gages. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand un rédacteur en chef déplaît, vous n'avez qu'à observer ce qui se passe, ou un article a échappé au rédacteur en chef, dans les 3 mois qui suivent, il est mis à l'écart. Très souvent. Et donc, on entretient un silence, et le fameux trou noir, qui effectivement, il le signe, il n'y a pas de problème, sauf que, et par exemple aux États-Unis, chaque média, lorsqu'il est contrôlé par un groupe, on voit toujours en haut du titre celui qui le contrôle. Ça met au moins tout de suite en phase quelle information on lit. Dire c'est comme un film, on voit tout de suite. Mais le problème dans les médias actuels, il y a une certaine aussi invisibilité, mais en même temps une maladresse. Moi, je prends ça comme exemple. Et, ayant travaillé pendant longtemps pour le ministère dans la modernisation du secteur du BTP, il s'est passé énormément de choses. J'ai fait beaucoup de transferts technologie. Et actuellement, c'est l'arrivée quand même des big data, d'IA. Comme vous avez dit tout à l'heure, le travail, avant c'était des gestes, répétés avec des connaissances techniques. Mais maintenant, nos capacités de mémorisation de ces gestes et de la technicité font qu'on peut se passer du travail habituel. Ce sont les IA qui dominent. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans les différents colloques. La masse que prend d'une façon importante et la place que prend les financiers, il y a une certaine financiarisation de toutes les activités. Où à la fin, on choisit des modalités techniques liées à la rentabilité financière à moyen terme. On n'étudie pas les effets sociétaux, etc. Et moi, à mon avis, il faut quand même faire attention. Concernant les jeux vidéo, c'est évident. Évident, il y a un truc qui se développe, qui est connu en Asie. Encore hier, je parlais avec un jeune, pourtant qui me paraissait brillant, mais motivé par une chose, quoi, c'est de créer une salle de jeux de vidéo à Grenoble pour faire des compétitions. Ça existe beaucoup en Asie du Sud. Et il m'a parlé de la masse énorme des jeux vidéo qui mobilisent ces personnes et qui, après, comme usage, c'est organiser des compétitions que j'appellerais neuronales ou... Enfin bref, il y a peu d'intérêt politique là-dedans. Et donc, moi, j'aimerais savoir si, est-ce que vous avez fait une approche des IA par rapport au travail? Merci.
Moi, je vais répondre d'une manière, en fait, pour gagner ma vie, parce que le documentaire de création ne fait pas vivre. J'ai fait beaucoup de films d'entreprise, et notamment pour Vinci, où j'ai travaillé justement sur des nouveaux systèmes d'accompagnement, virtuel pour les chantiers, les maquettes virtuelles et ainsi de suite, et puis l'augmentation de l'ouvrier avec ses lunettes et tout ça, et qui conduisent à faire par exemple qu'ils sont en train d'envisager le fait que pour fabriquer par exemple des salles de bain aujourd'hui, on va recevoir des kits préfabriqués et donc l'ouvrier va poser les choses de manière donc ce taylorisme dont tu parlais et qui finalement n'a pas du tout tout disparu, mais il est de manière managériale, il est étendu absolument à tous les niveaux de la société, dans les services, dans les services publics. Voilà, aujourd'hui, on voudrait que chacun soit juste l'exécutant d'un process, d'un protocole médical ou de quelque chose, et qui évacue toute velléité d'interprétation de la règle, qui est le vrai processus qui crée les règles de métier. C'est justement parce qu'on enfreint la règle qu'on réussit à faire le travail. Et c'est ça, ces règles de métier, que tout ça est en train de vitrifier, en fait, et qu'on essaye de documenter. C'était le sujet de C'est quoi ce travail? C'est-à-dire qu'on mettait en percussion la partition musicale qui demande pour exister l'interprétation de l'artiste, du musicien, du chanteur, et puis du standard, contre le standard industriel qui lui demande, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, et de toute façon, t'es interchangeable. Tu n'existes plus, quoi. Voilà.
Non, j'avais rien de particulier à dire, mais mais par rapport aux jeux vidéo, je trouve quelque chose d'assez intéressant parce que c'est ma génération. J'ai beaucoup d'amis qui bossent dans des énormes multinationales, dans les pires, et qui sont au sommet. Et je sais que le fait d'avoir joué aux jeux vidéo leur a appris beaucoup de choses. Ceux qui étaient très bons dans les jeux sont devenus très très forts et sont très riches aujourd'hui. Moi, je jouais un peu de manière plus rêveur et je perdais. Mais il y a aussi un moment où je trouve que dans ces jeux, il y a un truc où on développe la compétition, la compétitivité, les compétences, la répétition du geste. Et d'une certaine manière, je pense qu'on a mis des choses du travail dans le jeu. C'est très bizarre. Il y a des moments où on joue, on ne sait plus si on travaille ou si on joue. Il y a des trucs où voilà, les jeux sont construits comme ça. On passe 8 heures à jouer un jeu vidéo, puis on gagne du faux argent. C'est quand même hallucinant, quoi. Et je me demande aussi si on n'est pas en train de mettre quelque chose qu'on mette très normalement dans le travail à ces endroits-là, ou si c'est un apprentissage ou si c'est un exutoire. Enfin, moi, ça me ramène toujours à cette question de est-ce qu'on est fondamentalement fait pour être compétitif, fondamentalement fait pour travailler, pour faire un effort, pour donner tout ce qu'on peut. Et je me dis, mais c'est bizarre qu'on doive mettre ça dans un endroit virtuel. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas assez d'endroits dans le vrai monde pour les mettre? Je sais pas. Ça me pose plein de questions, en tout cas, effectivement.
Oui, bonjour, je suis Lucie Genoulaz, je travaille à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. Et j'arrive un peu en bout de course, mais pour aller dans le sens de deux autres interventions, nous, on a pour mission la collecte et la valorisation du film amateur. Donc c'est le pendant de ce que vous expliquiez tout à l'heure, quand les réalisateurs ne pouvaient plus rentrer dans les usines, entre guillemets. Heureusement qu'on avait les films amateurs et la démocratisation... En effet, la perte de poids des appareils, les appareils qui coûtaient moins cher. Et toute cette histoire-là du cinéma, du petit cinéma, certes, raconte aussi et documente des pratiques sociales et des pratiques des métiers. Et nous, c'est ce qu'on essaye, à notre échelle et à notre mesure, de mettre en avant et de valoriser. Et dernièrement, on a mené un projet Interreg pour questionner la question du travail d'hier et d'aujourd'hui, où on est à la rencontre de travailleurs... d'aujourd'hui, on les a confrontés aux images tournées hier et avant-hier. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu pour certains, surtout les jeunes qui étaient mécanos aujourd'hui ou soudeurs, il y a eu une vraie découverte de leur histoire et de l'histoire de l'entreprise dans laquelle ils étaient ou l'histoire de leur corps de métier. Et ça nous interroge aussi sur les pratiques, évidemment, d'aujourd'hui, que ces ouvriers, ouvrières, qu'on n'appelle plus comme ça, comment eux documentent leur métier, comment eux ils se représentent, comment eux ils s'appellent, entre eux et puis en société. Donc c'est aussi tout un pan qui, pour nous, évidemment, me paraît... intéressant et à questionner et qui contribue à la réflexion globale.
Je profite juste d'avoir le micro pour dire quelque chose duquel je ne sais rien en fait, mais je l'ai pas vu, mais on m'a parlé d'un gars sur TikTok qui se filme tout le temps, très régulièrement, tous les jours, qui est livreur, je crois, pour Amazon, et il est super populaire. Il se filme dans toutes les galères journalières. Il est un peu tout seul avec son camion de livraison. Mais je sais pas, peut-être quelqu'un sait qui c'est, mais ça rejoint exactement ce truc. Je trouve ça hyper intéressant aussi, comme c'est très nouveau comme point d'entrée, je trouve. Je n'ai boueur aussi, ouais.
Excusez-moi, je voulais prendre la parole, enfin en tant qu'ancien ouvrier, simplement. Je me souviens à un écran total, je pourrais plus donner la date, mais ça n'a pas une grosse importance. On avait reçu autour du travail des deux réalisateurs et on se posait la question, c'est comment rentrer dans une usine. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et donc, il y avait Gilles Perret qui avait fait un film sur le travail. Il avait dit, c'est ça, il faut un combat, enfin un rapport de force entre les ouvriers qui veulent faire rentrer un réalisateur dans l'usine et le patron, point final. Et ça a été, il a dit, c'était très résolu, hein, vu qu'il y avait une grosse majorité de salariés qui étaient syndiqués. Il a dit, ben nous, si vous le faites pas rentrer, on arrête de travailler. On a connu ça aussi avec un autre réalisateur, Michel Champrin, qui avait voulu faire un film sur le travail. Et moi, comme je travaillais dans une filiale d'un gros groupe français, Thales, hein, Thomson, on voulait le faire rentrer, bien sûr, service de communication de Thales à Paris, à Digne-les-Bains, on fait rentrer personne. Même mon patron, qui était ouvert à pas mal de choses, mon directeur, je précise, a dit, ben, désolé, moi je suis salarié, je peux pas, point final, c'est tout. Donc, on n'a jamais pu faire rentrer un réalisateur dans notre usine, qui aurait été très intéressant, même si c'était pas pour faire parler des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, pas du tout. À côté de ça, j'ai eu l'occasion d'assister un groupe, enfin une équipe de films qui a fait un film d'entreprise chez Thales. Ils sont restés 2 jours, ils sont venus avec un panthère, ils sont venus avec des caméras, des éclairages, on s'est bien enquiquiné parce que c'était en salle blanche. Et je crois qu'ici, il y a des gens qui travaillent en salle blanche, c'est-à-dire qu'il faut tout nettoyer à l'alcool, il faut que les gens soient propres, on les nettoie aussi, enfin, façon de dire, très compliqué. Ça les a pas embêtés du tout de les faire rentrer pendant 2 jours dans notre usine. Ils ont filmé plein de choses, et quand on regardait le film publicitaire de Thales, à la fin, monté, on n'en avait même pas pour 10 secondes de chez nous. Et ils sont restés 2 jours chez nous. Voilà. C'était juste donner cet exemple-là. Voilà.
Juste très rapidement. Ça permet de dire qu'en fait, et c'est ce que dit la sortie des frères de l'usine des Frères Lumière, c'est que les images, elles appartiennent pas aux ouvrières qu'on a filmées. Elles appartiennent au patron et à des fins très précises. Aujourd'hui, il est clair que dans les entreprises, l'image appartient à l'entreprise et pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que pareil, on voit beaucoup enfin moi je vois beaucoup sur Instagram de gens qui se filment sur un travail qui est souvent travail de construction, mais jamais dans le cadre de grandes entreprises. Voilà, on sent que même ça c'est complètement verrouillé. Il y a eu un moment, je me demandais, tiens, si justement par l'intermédiaire des CE, il n'y avait pas possibilité, puisque, enfin, je l'ai vu avec les cheminots, hein, dès qu'il y a un problème sur les voies, ils prennent en photo, ils filment, ça sert de récolter tout ça et d'en faire finalement une base de données qui viendrait contredire la fiction patronale, en fait. Mais c'est très compliqué ça à faire parce que tout de suite, peut-être il y a des expériences, très vite la question du secret des choses rentre en, et ça peut tout de suite être jugé quoi.
Ces films-là, c'est dommage parce qu'à l'époque, je savais pas que ça pouvait avoir de la valeur, on va dire, façon de dire, valeur sociale, etc. Et tous ces films, ils sont restés à l'usine, voilà, dans des archives, dans des disques durs, etc.
Avant de donner la parole à Patricio Pardo-Palos, donc Sébastien, ce que vous venez d'évoquer, c'est un des sujets de la table ronde de cet après-midi, me semble-t-il. Est-ce que c'est sur ce sujet-là que tu voulais parler, Jean-Pierre ?
Oui, juste, mais c'est pour dire qu'il faut pas se désespérer complètement, parce que il y a quand même des entreprises où il y a des résidences d'artistes et ça se fait, et c'est pas des productions qui sont sous la coupe du patronat, et je parle pas uniquement du cinéma, je parle des expositions d'art plastique en général. Et à Grenoble, quand même, on a eu, vous avez chez Alstom, pendant un mois ou trois mois, un artiste qui est venu à la demande du comité entreprise, qui est rentré, qui a produit des œuvres qui ont été mises dans les, enfin, de l'image animée, des discours, un débat avec Yves Clos, enfin, etc., qui s'est fait avec Stéphane Le Gaël. Bon, et c'est pas, quand on rentrait dans l'entreprise, on avait les images de l'entreprise, effectivement, telles que l'employeur les met pour accueillir les clients qui arrivent, et puis les images qui étaient faites par Le Gaël, qui n'avaient rien à voir. Enfin, je veux dire, qui étaient effectivement qui parlaient du travail, qui n'étaient pas des images révolutionnaires pour autant, mais qui parlaient à moins qu'on pense que montrer vraiment le travail et le fouiller et l'explorer, est révolutionnaire. Dans ce cas-là, elle l'était. Mais elle n'était pas autre chose que cela. Et donc ça, c'est possible. Mais il y a d'autres cas de figure. Deuxième chose que je veux dire, c'est pas parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'entreprise qu'on ne peut pas filmer le travail. Denis Gerbrand a fait des choses superbes à partir de Lille, c'est-à-dire des salariés qui travaillent dans le Nord. Ils se retrouvent en vacances dans les campings des plages de l'Hérault, de la Grande Motte. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de leur travail. Et il est mime en train de travailler. Donc, et là, il y a des choses très intéressantes qui se font, parce qu'en répétant leur travail, ils redisent des choses sur leur travail. Donc, il y a toujours tout un tas de possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer dans l'entreprise, hein, c'est pas redire ça. Mais vraiment, on peut trouver des alternatives intéressantes qui peuvent être plus... Les contraintes ne sont pas forcément contre nous. La liberté peut aussi être un peu gênante.
Entendu. Je vais laisser la parole à Patricio Pardo Avalos.
Oui, bonjour. Je vais essayer de parler doucement, comme ça les mots ne me trahissent pas. Dans le stress du micro suivant, je ne trouve pas les mots exacts. Je suis électricien, à la base, et aux années 90, j'arrivais à la conviction que j'avais la chance d'accéder régulièrement dans des sites industriels, en particulier dans la région de l'Isère, les plus diverses, et que pour ça j'étais un privilégié. Parce que c'était un monde fantastique dans lequel il y avait une sorte de rideau cybernétique qu'on ne voyait pas derrière les murs. Et j'ai pris la décision, j'ai pris un appareil photo, un très vieux appareil photo Canon FTV, que je planqué dans ma caisse à outils, parce que comme j'étais un nomade de chantier, j'avais la possibilité de me balader semaine à semaine dans des chantiers différents, et je commençais à photographier mes amis et mes camarades, avec une conviction que c'était politique, et c'était esthétique aussi. C'est-à-dire que j'avais choisi de travailler en noir et blanc, et je voulais laisser une trace de cette période dans laquelle, apparemment, le monde du travail avait conclu son rôle historique et on avait passé à un autre monde, à un monde de fantaisie dans lequel nous, on n'avait pas accès. Au moins, on ne pouvait que recevoir ce que le système il voulait nous donner, c'est-à-dire cette image hollywoodienne coupée de tout le monde et toute réalité. Et moi, j'étais un gars de chantier, un tout simple électricien. J'ai eu la chance d'avoir tissé pendant des années des réseaux d'amitié, et avec beaucoup comme moi précaires, et qui sont compris ma démarche. Et ils sont acceptés de jouer le jeu, en certains cas. Ils m'ont facilité, dans une complicité, la possibilité de faire des photos. Je faisais pas des images en mouvement. Je, avec mes moyens suivant irrisoire, je n'arrivais qu'à avoir un tout vieux appareil photo que j'avais acheté en occasion. Mais l'importance de ce qu'on a fait dans lequel Pascal, qui est là, a joué un rôle décisif, c'était qu'on a réussi à produire une grande exposition dans laquelle je fais référence aussi avec une certaine tristesse. Parce que malgré tout nos efforts, nous n'avons pas réussi à les donner la visibilité qu'on aurait souhaité que cette expo puisse avoir. Et surtout, quand on entend, comme aussi dans ces périodes-là, en fait, il n'a rien eu. Et moi, je me demande, mais nous, on était au front. Et on risquait de se faire couper la tête, parce que suivant, on faisait les photos sans aucune autorisation. Mais on a fait un travail magnifique, parce que 200 photos dans le musée le plus important de la région, à Grenoble, l'ancien musée de peinture. Et nous, on était là. Et on a organisé des activités, des réflexions, on a fait venir des spécialistes, etc. Et on a passé, dans les temps, presque de façon incognito. Le système, on dirait qu'il ne nous prend pas en compte. Et par la suite, dès que j'ai vu, je passais à un autre support et je commençais à filmer dans le monde du travail. Mais la même thématique, on a fait un film qui s'appelle « Parole des trêves qui s'est fait grâce au concours, au soutien extraordinaire de mes amis du comité d'entreprise CDF, la CMCS de Grenoble. Et c'est un film que nous avons été même primé dans le festival interne. Mais nous n'avons pas réussi non plus à avoir une autre visibilité que faire des choses entre nous. Je continuais mon parcours. Je partais à l'étranger, j'étais en Afrique, j'étais invité au Sahara, j'étais invité à Cuba, pour faire la même chose que j'avais fait ici. Soit à lutter, soit à combattre avec mes images, mais toujours avec le même espoir que notre message d'amour, de solidarité, de combat, il soit qui arrive un jour dans l'oreille réceptive de quelqu'un comme nous, qui dans le monde du travail assume ses responsabilités, il prend ses risques. Le risque qui est suivant est total. Je regrette de recevoir une balle dans la tête parce que je filmais dans ce lieu, dans des lieux interdits, ou tout simplement un mépris parce que un mépris parce que suivant je sens que toute la production et tout ce qui importe en France en termes de réalisation cinématographique ou audiovisuelle, ça se passe à Paris. Et suivant, pour nous, il n'y a rien. pas de cède, pas de fonds, pas de soutien. Sauf, des fois, un coup dans l'épaule, t'as bien fait. Continue comme ça. Mais pour toi, il n'y a rien. Voilà.
Je propose que ça, c'est un sujet qu'on pourrait continuer à aborder, mais avant, je voudrais juste faire une précision par rapport à cette exposition évoquée par Patricio Pardo. C'est une exposition qui avait été, qu'il est venu proposer à l'association qui s'appelait, j'allais dire Tech, mais non, c'était TTI, Transtourisme Isère, qui était une grosse association inter-CE. C'est vrai, et aussi pour faire écho à ce que disait Jean-Pierre Burdin, il se trouve que dans l'agglomération grenobloise, il y a une histoire très riche d'abord industrielle, mais aussi d'action culturelle des comités d'entreprise. Et donc, beaucoup de comités d'entreprise, pendant de nombreuses années, ont vraiment mené des projets culturels de haute qualité. Et c'est toujours dans ce cadre-là, d'ailleurs, que des choses ont pu se faire en lien avec le travail, des choses assez conséquentes, dont celle qu'évoquait Jean-Pierre c'est Alstom, oui, j'avais le vieux nom, oui, Nerpic, donc c'est Alstom, voilà. Donc cette exposition, c'est une exposition c'était quoi, les années 80, je me rappelle plus. Oui, c'est vrai que c'était donc financé par un certain nombre de comités d'entreprise avec le soutien de cette association dans laquelle je travaillais à l'époque. C'était la production d'environ 200 photos magnifiques en noir et blanc exposées au musée de peinture. C'est vrai qu'il y a deux choses à dire sur ça en écho avec ce qu'on fait là maintenant. À l'époque, ça avait été parfois impossible d'avoir les autorisations de faire simplement des photos, on parlait même pas de filmer. Parfois, ça a été possible, mais c'était toujours le fruit d'une négociation avec le syndicat de l'entreprise, le comité de l'entreprise. Et deuxième chose qu'il y a à dire, c'est que c'est vrai qu'à l'époque, cette exposition avait beaucoup surpris, beaucoup passionné, parce que c'était la première fois que des gens voyaient des photos artistiques en grand format sur le travail. Mais comme elles étaient en noir et blanc, et comme le monde industriel est tellement méconnu de ceux qui n'y travaillent pas, les gens, beaucoup de gens pensaient que c'était des photos du passé. Ils nous ont dit, ça serait bien que vous fassiez des images d'aujourd'hui. Et nous, on leur disait, bah oui, mais elles sont de l'an dernier. Elles sont bien d'aujourd'hui. La seule différence notable, c'est que les ateliers dans lesquels parfois tu photographiais étaient plutôt vides, alors que 50 ans avant, ils étaient grouillants de monde. Voilà. Mais si vous voulez, on peut passer un petit temps. On va peut-être déborder un tout petit peu, mais cette question du travail du cinéaste dans ses démarches pour créer un film, pour l'écrire, pour être soutenu. C'est difficile d'en parler en peu de temps parce que c'est une grande question. C'est pas vraiment le sujet complètement de nos tables rondes, mais on pourrait y consacrer, si vous êtes d'accord, un petit instant quand même, parce que c'est quand même un sujet important. Pour que nous, le public, on voit des films, il faut quand même qu'ils existent. Pour qu'ils existent, il faut que les réalisateurs puissent en faire. D'autres acteurs que les réalisateurs aussi, ça on en parlera peut-être plus cet après-midi. Donc voilà, peut-être on peut faire écho à la remarque de Patricio, la difficulté de faire des films quand on ne serait pas dans un circuit bien établi. Bon, vous n'êtes pas toutes de même nationalité, donc ce ne sont pas forcément les mêmes questions qui se posent à chacun de vous. Mais on peut peut-être consacrer un petit moment à parler de ça, faire un film aujourd'hui, concrètement, en termes de possibilités, c'est quoi enfin, quels sont les problèmes les plus importants peut-être, ou les facilités aussi?
Rapide. Je donne rapidement ma version suisse, qui est très particulière, mais je pense qu'en fait la France n'est qu'une hyperbole de ce que je vais décrire. On est un tout petit pays, on est 8 millions. Un film de fiction coûte 3 millions. Mon film a été vu en Suisse par 7000 personnes. Donc après ça, je me pose un peu des questions de savoir voilà à quoi ça rime si on divise le nombre de spectateurs. Je crois que c'est 100 francs, 100 euros par personne ou un truc comme ça, ou 300, je sais pas très bien. Enfin bon, donc, en tout cas, c'est absolument pas rentable. Il n'y a pas un sou d'argent privé là-dedans parce que ce serait de l'argent perdu. Donc tout le financement est public. Et donc sans volonté politique, il n'y a pas de cinéma. S'il n'y a pas de cinéma suisse, comme je le disais, on ne regarde que si on a de la chance et qu'il y a encore un cinéma français. Et si la France ne finance pas son cinéma, on regarde tous un cinéma américain. Donc la question, elle est très politique et c'est la question de continuer à raconter ses propres histoires. Et ça se fera pas par des forces privées. Voilà, donc c'est la seule chose que j'avais envie de dire. Donc le fait qu'on puisse faire notre travail, d'une certaine manière, il faut être reconnaissant de ce mouvement, du fait que collectivement on arrive encore à financer des choses aussi chères et aussi peu rentables, et arriver à quand même continuer à se dire que c'est quand même utile, ce qui est quand même, voilà, ça démontre qu'on n'est pas complètement sujet à des réflexions économiques et rationnelles, et qui reste encore quelque chose de mystérieux dans nous. Et donc voilà, donc juste j'aimerais juste être reconnaissant de ça et qu'on puisse se dire voilà, après vous dites un problème de distribution. Voilà, à partir de là, ça reste un système extrêmement compétitif. Beaucoup de gens veulent créer des choses artistiques. Tout le monde veut être vu, tout le monde veut être montré. Là, il y a quelque chose de profondément sauvage et compétitif où voilà, les plus forts finissent par émerger. C'est hyper cruel. Mais bon, c'est comme dans le sport de haute compétition, on est intéressé. Il y a quelque chose de fondamentalement compétitif dans l'art, et on aime certaines œuvres d'art parce qu'elles sont meilleures que d'autres. Donc voilà, il y a une espèce de violence inhérente à ça. Mais dans le fond, on a quand même de la chance qu'il y ait quelque chose qui nous permette d'avoir cette compétition sauvage, parce que sans fonds publics, il y aurait absolument rien. Donc voilà, en tout cas, parlant d'un tout petit pays comme la Suisse, c'est assez flagrant chez nous. Mais je pense que c'est la même chose à une échelle différente en France. C'est quand même très très dur d'avoir un cinéma, on va dire, rentable, francophone. Voilà, petit mot.
Oui, mon voisin disait tout à l'heure, je ne sais plus comment tu formulais, mais c'est sûr que pour faire les films, il faut, faut écrire des dossiers, il faut rentrer dans des cases, il faut déposer à des commissions, il faut aller défendre. Dans le cas du documentaire, moi j'ai eu du mal à rentrer là-dedans au tout début. Déjà parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'étais pas très formatée pour écrire les dossiers, tout ça. Et puis je ne comprenais pas cette logique qui voulait que je sache assez précisément au départ ce que j'allais filmer, comment j'allais le filmer, comment j'allais le montrer, les valeurs de plan, tout ça. Parce que le dossier, parfois, il faut être bien assez précis, parce que si t'es pas assez précis, on dit qu'on sait pas où tu vas pour pouvoir aller compétir à des guichets, pour pouvoir avoir de l'argent, pour aller filmer. Moi, je suis d'origine burkinabé. J'ai la double nationalité depuis 5 ans, ce qui est très bien pour moi parce que ça me permet à la fois de postuler à des guichets dédiés au pays pauvre, voilà, et à la fois de prétendre un peu à des guichets qui sont ouverts aux Français ou aux Occidentaux. Peut-être que je devrais prendre aussi la nationalité suisse en plus, ce serait pas mal. Mais voilà, des fois quand je dépose, il y a toujours cette phrase bienveillante et tellement maladroite des fois. Mais t'inquiète pas, t'es une femme et puis t'es noire, c'est le quota. C'est pas du tout raciste, hein, c'est juste le quota quoi. Donc à la fois c'est bien d'avoir le quota parce que c'est tellement compétitif que tu te dis bon bah s'il y avait pas le quota, peut-être que je passerais nulle part. Et puis c'est tellement réducteur parce que tu te dis bon, j'espère que j'ai quand même un regard et que qu'il est reconnu et que c'est pas je suis pas juste là pour le quota et voilà. Pour revenir à mon film sur Balolé, justement si tout à l'heure je disais humainement que j'avais beaucoup grandi en faisant ce film, mais au niveau professionnel aussi j'ai appris quelque chose, c'est ce que le film Balolé, il s'est fait pratiquement sans écriture. S'il y a une écriture, c'est vraiment au montage. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, je découvre ce trou au moment où il crée l'association. J'ai pas encore d'argent, j'ai pas le temps de repartir en France et revenir avec de l'argent et aller monter les dossiers pour avoir l'argent pour revenir. Donc je fais tout le premier tournage, je filme moi-même avec ma caméra qui n'est pas professionnelle. C'est la première fois de ma vie que je filme, donc je ne sais pas filmer. Le film s'en ressent de toute façon. Et voilà, et l'histoire de l'association devient de fait l'histoire du film. Donc, j'ai pas préécrit comme sur mes deux précédents films, avec un producteur, un dossier où on s'est dit, où on a casté des familles et des gens. On s'est dit, lui, il va bien dégager à la caméra, il est intéressant pour ci, pour ça. Il n'y a pas eu tout ça. Je découvre le trou, il faut tout de suite sortir la caméra. Je sors la seule caméra que j'ai, qui n'est pas professionnelle, et je filme moi, sans être une cadreuse. Je suis réelle, mais je suis pas formé pour filmer. Et puis, donc, ça se suit comme ça. Il y a un autre personnage dans mon film qui est une sorte de conteur génial qui s'ignore, c'est Adama, c'est lui qui ouvre le film. Et même lui, je ne l'ai pas casté, en fait, il vient à moi naturellement, il me dit, c'est quoi l'intérêt pour toi, t'es blanc, là, d'être ici? Ça, c'est au tout début, parce que quand je découvre le trou, voilà, je suis avec une équipe. Et je dois m'expliquer, je dois me justifier presque. Il me dit, c'est quoi l'intérêt là? C'est filmer la misère là, ça vous amuse, c'est ça? Donc je dois lui expliquer que non, de la même façon que eux là-bas, ils aiment voir les histoires sur la vie des Occidentaux pour apprendre à connaître l'autre. Ben, en Occident, on peut être dans la même démarche de vouloir savoir leur vie et que c'est juste pour ça. Et tout d'un coup, je me rends compte assez vite qu'il est dans ce truc avec moi où c'est lui qui pose les questions et moi qui réponds. C'est pour ça que j'ouvre le film là-dessus. Il me dit, c'est pourquoi tu filmes à cette heure-là, les camions sont déjà partis, il n'y a pas de travailleurs, c'est quoi l'intérêt? Et très vite, je me rends compte qu'en fait, il a une sorte d'intelligence comme ça à la caméra. Il définit presque la distance que la caméra doit avoir avec lui. Et très vite, je me rends compte que faire du documentaire, c'est peut-être avoir l'humilité de savoir que on est juste les passeurs et que préécrire des choses et prépenser des choses, c'est peut-être pas ça, faire du documentaire, c'est avoir l'humilité de s'effacer de savoir que ce qu'on veut filmer, si on veut les filmer, c'est parce qu'ils sont suffisamment grands, suffisamment beaux, suffisamment forts, et surtout, ils savent ce qu'ils ont à dire d'eux, ce qu'ils ont à montrer d'eux, à quelle distance ils veulent montrer ce qu'il y a à dire d'eux, ce qu'il y a à montrer d'eux, et qu'ils ont l'intelligence de tout ça, même si c'est pas conscientisé pour eux. Très vite, je me rends compte de ça. Et du coup, c'est pour ça que dans le film, on a aussi ce quatrième mur qui est cassé assez fréquemment, que ce soit avec les jumeaux, que ce soit avec lui, ou la mère des jumeaux, je reviens là-dessus, les jumeaux qui oublient le micro, qui parlent de l'équipe, tout ça. Très vite, je me dis, à un moment donné, je m'arrête et je me questionne sur ce truc, cette démarche qui aujourd'hui nous oblige, même dans le documentaire, à savoir à l'avance, assez précisément finalement dans un dossier, qu'est-ce que tu vas filmer, comment tu vas le filmer. Et je me dis, mais en fait, si on aime suffisamment le réel, il faut le respecter suffisamment pour savoir que c'est ce qu'on vient prendre, il sait, le réel va se déployer et que il y aura toujours quelque chose et qu'on n'a pas besoin, parce qu'on nous dit qu'il faut écrire et que écrire c'est avoir un regard, oui certes, mais parfois je me demande si on se cache pas derrière ça pour justement trop, nous, en tant que réalisateurs, prendre beaucoup de place et dans ce qui va être dit et la façon dont ça va être dit. Et je me demande s'il n'y a pas cette humilité à avoir de se dire que si on aime le réel, le respect qu'on peut lui témoigner, c'est venir là et se poser et lui laisser le temps, et que le réel, de toute façon, il se passera toujours quelque chose. Ou rien, ou peut-être qu'il se passera rien, mais il se passe toujours quelque chose. Et de toute façon, c'est dans cet intervalle-là, ce qui se passe sans qu'on l'ait provoqué, qui est beau et qui est grand et qui est fort. Quoi qu'il en soit, oui, pour revenir à la question des budgets, c'est pas toujours évident. Moi, ça fait 10 ans que je fais du film documentaire. J'essaie de faire ma première fiction qui raconte la France-Afrique post-coloniale à travers l'histoire de mon grand-père. Ça fait 15 ans que j'ai écrit la première version. Encore aujourd'hui, je me bats pour que le film sorte. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu un Zoom avec une productrice qui m'a demander si je ne voulais pas le faire réaliser par quelqu'un d'autre, parce que comme j'ai pas fait d'école de cinéma et que j'ai pas encore fait de fiction, le film ne peut pas se faire à moins de 1,5 million en euros, et que comment on peut avoir confiance pour mobiliser autant d'argent pour suivre une réalisatrice qui n'a pas fait d'école de cinéma et qui n'a pas encore fait de fiction. En sachant que je lui ai répondu très sincèrement qu'il y a 10 ans, j'ai été confrontée à la même question pour le documentaire, mon premier documentaire. Il a fallu que je le co-signe, que je partage la parentalité pour qu'on puisse me faire confiance et m'ouvrir une porte. C'est très, très compliqué. Mais à la fois, je ne vais pas me plaindre parce qu'effectivement, avec ma double nationalité, ça me permet de postuler à différents guichets, et je sais pas comment on fait pour avoir la nationalité suisse. Peut-être je pourrais aller postuler chez vous aussi. Ah oui, ah ouais, même j'ai déjà un français, c'est compliqué. Je vais l'éjecter et prendre un suisse. Voilà, trêve de plaisanterie, c'est ce que je pouvais ajouter.
Peut-être rapidement, moi ça confirme quelque chose. Avec Luc, on a écrit un dossier qui était celui du premier film, Les Réquisitions de Marseille. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné à travers le hasard de rencontres. Et Cheminots, c'est l'initiative vraiment du CE des Cheminots PACA, qui nous ont non seulement ouvert les portes, mais qui ont produit le film en fait. Et qui nous ont donné tout ce qui... Voilà, ils ont... Et c'est dans ce cadre-là que, effectivement, comme tu le décris Jean-Pierre, nous on a connu une résidence très heureuse et très très fructueuse. Mais surtout parce que en fait on ne sait pas écrire de pré-dossier, nous on est obligé de passer un certain temps dans quelque chose pour petit à petit commencer à comprendre ce qu'on va peut-être pouvoir y chercher. Et donc ça prend 2 ans, on se fait souvent engueuler par les commanditaires même, parce que il y a un moment ils se disent mais vous êtes vraiment réalisateur, vous voulez vraiment faire des films, et donc peut-être cette singularité là ça commence à créer l'expérience qu'on souhaite créer finalement dans le microcosme de travail. Et pour obtenir ça, il faut des moyens qu'on n'a pas, donc l'intermittence, les films d'entreprise, Luc organise des festivals, ça nous permet de financer ça, et puis petit à petit après de trouver les moyens une fois qu'on a pu écrire un dossier. Ce qu'il faut dire, c'est que le cinéma documentaire, il est rattrapé par ce qui touche la fiction, c'est-à-dire que on est en surdemande de précision, il y a une rationalité industrielle qui doit aussi s'appliquer là, donc il faut que le pedigree du réalisateur ou de la réalisatrice soit comme ci, comme ça, comme truc. Et donc tout ça est compliqué. Et donc aujourd'hui, moi je pense que sur les questions du travail particulièrement, ce qui est vraiment primordial, c'est de pouvoir communiquer avec les enseignants chercheurs, avec le milieu du travail, et notamment les CE. Les CE sont vraiment au centre de tout ça, mais avec les difficultés qu'on connaît au niveau du CE, c'est-à-dire la difficulté d'avoir les budgets suffisants, la question des pressions aussi de l'ambiance. Enfin, nous ce que nous avait expliqué le CE des cheminots PACA, c'est que on leur reprochait de mettre tant d'argent dans un film. Pourquoi pas plutôt payer des choses qui servent et qui ont une fonction sociale plus directe par rapport aux salariés et qui donc les mettent en porte-à-faux. Et on sent très vite que s'ils lâchent l'affaire, ils deviennent des vendeurs de billets, en fait. Des choses de spectacle, des trucs que à la fois liés à la pénurie et tout ça. Et donc, on sent que les choses se resserrent. Je sais quoi, ce travail n'aurait pas pu être produit s'il n'y avait pas eu l'intervention du ministère de la Culture et de TECRI. Enfin de Travail et Culture, qui est devenu coproducteur et qui, par la somme que ça a débloquée, a accrédité l'idée qu'on pouvait faire un film, le début. Et ensuite, le guichet du cinéma a suivi parce qu'on a une production qui est très ancrée dans le cinéma. La télévision ne nous apporte aucun crédit parce qu'on n'a pas les pédigrés et surtout on n'a pas les bonnes durées, on n'a pas les bonnes manières de faire, on n'utilise pas de commentaires. Voilà, tout ça. Et donc on est complètement lié. Et si aujourd'hui je travaille avec un laboratoire de recherche, je pense que c'est parce que c'est aussi ça. C'est parce que tout d'un coup, les opportunités ont fait qu'à travers ce réseau, je continue à avoir accès au travail, de manière souvent clandestine. Voilà, j'ai tourné trois ans une unité de soins palliatifs dans un grand hôpital parisien, mais c'était totalement clandestin. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Parce que je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre, il y a encore les possibilités, mais je suis désolé, pour faire des films, on en parlait avec Nicolas, dès que tu veux rentrer une caméra, c'est complexe. Surtout si tu souhaites une diffusion qui soit autre que peut-être tu vois quelque chose qui est interne à l'entreprise. Dès que tu veux sortir en réseau salle des trucs, ça devient complexe quoi. On devait faire un film avec l'hôpital de la Timone. La PHM nous avait signé une convention et puis ils ont finalement compris un peu qui on était. On avait l'appui du professeur Jouve là qui fait partie du comité interhôpitaux qui a un poids fort. Qui est responsable du secteur pédiatrie, mais ça n'a pas suffi et ils ont fini par évincer le projet quoi. Pardon.
On va encore prendre peut-être la dernière intervention. Ouais,
c'est pas une question, mais pour aller dans ton sens, moi je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on dégomme les services de communication. Parce que c'est quand même eux qui font chier le monde tout le temps. C'est eux qui ont le pouvoir. Je vais donner un exemple personnel. C'était délirant. Moi, je travaillais pour le musée d'Orsay pour son ouverture. Vous savez, c'est un musée sur le 19e siècle, donc c'était normal de parler des charbonnages quand même. Eh ben, ils ont pas voulu parce qu'ils étaient en train de fermer les mines de charbon. Donc, ils ont pas voulu. Donc, ce qu'on a fait, ni une ni deux, on a contacté la section CGT de, je sais plus où c'était dans l'Est. Ils ont mis leurs vêtements de mineurs, on les a filmés en sortant, et ça nous a donné un plan de mineurs. Mais je veux dire, il faut savoir que nos ennemis, c'est les services de com, qui décident à la place des artistes de ce que doit être l'image de marque de l'entreprise. Et c'est un vrai problème.
J'ai une petite anecdote 2.0 à ce sujet-là. J'avais tourné un court-métrage avec Emmanuel Marc, avec qui j'avais écrit mon film, qui était son court-métrage de fin d'études à IKEA. C'était l'histoire d'un très très beau film qui s'appelle La vie qui va avec, qui était le divorce d'une femme. Après son divorce, elle va acheter tous les meubles pour la nouvelle maison. Et tout se passait à IKEA, c'était que les courses, une violence absolue. Dans le propos entre voilà, consommation, famille, etc. Et on s'attendait à ce qu'on nous interdise de filmer là-bas, etc. Et en fait, ce qui était encore plus terrifiant, c'est que c'était complètement le contraire. Ils nous ont ouvert leurs portes, on est arrivés, ils nous ont dit « Bienvenue chez nous, vous êtes nos invités ». Et en fait, ils avaient cette politique de com, de tout ouvrir et de tout montrer. Alors c'était génial, il n'y avait aucun problème, mais ça m'angoisse jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
Je voulais demander si... Oui, je vais vous passer la parole. Mais est-ce que dans la salle, parce qu'avec les masques, je n'ai pas reconnu tout le monde, il y a Martin de Bishop ou ou l'administratrice de regarder lieu. Non, ils devaient être là, puis peut-être qu'ils n'ont pas vu. Donc je vous dis ça parce que ce soir, on accueille le concert, le ciné-concert La Mécanique des Roches. Et c'est un documentaire, ce qui est assez rare pour un ciné-concert, un documentaire qui se passe à Livet-Gavet, autour de la vallée de la Romanche. Et donc peut-être qu'ils seront là cet après-midi. J'aurais voulu leur poser la question de comment s'était passé pour eux, justement, le tournage. Avant de passer la parole à Jean-Luc Monard, je vous rappelle que dans le programme du Festival Écran Total, pour les personnes qui sont grenobloises, on passe aussi le film Rouge de Farid Bentoumi. Il y a aussi dimanche matin Debout les femmes que Gilles Perret a co-réalisé. Avec François Ruffin, son nom m'échappe toujours. C'est Gilles Perret qui sera là dimanche. On peut dire aussi que le film de Catherine Corsini, La Fracture, est aussi un film qui d'une certaine façon aborde les questions du travail. C'est pas son sujet central, mais quand même ça l'est aussi. Et beaucoup de films en ce moment, c'est vrai qu'on voit sortir à nouveau des films qui sont assez imprégnés des thématiques de travail. Donc peut-être, comme on a dépassé l'heure, je vais laisser la parole brièvement à Jean-Luc Monard qui l'a demandé. Et est-ce que, avant que l'on finisse cette première table ronde, je vous demanderai très brièvement si vous voulez rajouter quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire, et ensuite on pourra clore comme ça cette première matinée.
Donc Jean-Luc Monard, donc moi je viens de l'association Savatou, c'est une association inter-CE qui regroupe à peu près 200-250 CE sur la Savoie et l'Isère. Donc à peu près, voilà. Donc et juste pour témoigner par rapport au rôle important qu'ont pu jouer les CE dans toute l'histoire du CE, alors à la fois en termes de consommation pour aller voir des films, mais aussi en termes de production, j'ai entendu, hein, voilà, donc en plus je suis cheminot, donc du coup, voilà. Donc mais ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est quand même fragile. Mais même plus que fragile, parce qu'il y a d'une part la réforme des CSE qui a mis à mal quand même de manière importante, et je suis pas sûr qu'on mesure encore les conséquences que ça va avoir dans la politique des CE. Ensuite, il y a toute une action, alors pas que pour les CE, mais aussi la fonction publique, de réduction des budgets, qui entraîne, des complexités pour les décisions des élus, en disant qu'est-ce qu'on fait de la dotation qui diminue, et on a moins de temps parce qu'il faut s'en occuper, donc ça réduit les capacités des élus CE pour décider, hein, donc ça, on sent que c'est quand même menacé, hein, voilà, donc, et puis en même temps, il y a, des transmissions de connaissances, de savoir-faire qui se perdent un peu, quand même, voilà. Et si on additionne tout ça, ça montre que c'est très fragile, voilà, donc, et là-dessus, je sais que nous, au niveau de l'association, on va essayer d'organiser en début d'année prochaine un débat justement sur c'est quoi le cinéma, comment on produit un film, combien ça coûte, etc. Et voilà, qui finance, comment il est distribué et comment il est diffusé. Voilà, les trois volets. Et on va essayer. Alors là, notre cible à nous, c'est d'être les élus, c'est eux, hein, parce que c'est eux qui décident. Et on va essayer de travailler avec eux là-dessus sur cette question-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils sont pas forcément armés pour avoir des réponses à tout ça, sachant que. Là, ce qui complexifie encore tout ça, c'est que depuis quelques années, les employeurs, dans la dernière période, on sent que les questions de pouvoir d'achat reviennent un petit peu plus, mais pendant toute une période, il n'y avait plus. Et en fait, les gens se retournaient vers les CE pour avoir des aides financières qu'ils n'avaient pas autour. Voilà. Et du coup, là, il y a besoin qu'ils soient armés pour résister à la pression, pas que des employeurs, hein, mais aussi des gens qui les amènent vers la redistribution pure et simple d'argent. Quoi, voilà. Donc ça, c'est un sujet important. Et derrière ça, c'est qu'on va au-delà de c'est le cinéma, mais la question aujourd'hui, c'est qu'on a besoin que des CE continuent à avoir des lunes budgétaires sur des projets culturels, donc qui sont pas associés à une aide particulière à une personne, parce que aujourd'hui, on sent que ça disparaît petit à petit. Voilà, donc des lignes budgétaires sur les projets culturels, il y en a de moins en moins. Et on a besoin d'avoir ça, parce que moi je veux pas qu'on soit en nostalgie permanente de ce qui a pu se faire avant. Voilà, donc c'est comment en même temps, moi je pense que tout n'est pas perdu là-dedans. Hein. Moi je pense qu'il y a besoin d'amener des explications, de discuter, et je pense que les gens entendent. Hein, voilà, donc c'est pas, je dis pas que c'est simple. Le truc, c'est comment on s'y prend, comment on y arrive à faire ce travail-là. Quoi. C'était juste un témoignage comme ça.
Est-ce que on s'arrête là ou vous voulez intervenir? Non, c'est bon pour vous. Vas-y, prends le.
Non, juste dire que les services de com, c'est en fait que le bras armé de quelque chose qui est bien plus vaste et qui est le capitalisme. Donc c'est le service propagandaire d'un régime général. Enfin voilà. Aujourd'hui, pour aller dans le sens de ce que tu dis, je pense que de notre côté, on trouve des solutions pour être beaucoup plus léger, pour être beaucoup plus pour accéder, pour permettre à des structures d'accéder à des budgets très simples, à jouer avec la question de l'intermittence en France qui est encore, tu vois, par exemple, moi je travaille avec des centres socioculturels à Poitiers avec des budgets extrêmement réduits, mais on arrive à faire des choses. Voilà. Ce qui est important, c'est de permettre aux gens de remesurer ce que produit et qui est difficilement descriptible le fait de produire des choses et de le partager ensuite ensemble. Et la question du cinéma, là, elle reste très puissante en fait. Voilà. Enfin, moi, je le vérifie même sur des choses plus très très simples avec des moyens très simples. Quoi. Voilà. C'est tout.
Bon, bien, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour ces échanges vraiment très riches.